Pictura Poésie présente un nouvel épisode de son podcast « Chambre avec vue ».
Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les natures mortes de Paul Cézanne en s'appuyant sur une analyse assez fine de Cézanne, l'immobilité vibrante des natures mortes. Son ambition était un peu folle quand même, étonner Paris avec une pomme. Alors la question, c'est comment diable a-t-il réussi à insuffler une telle vie à des objets du quotidien? C'est ça qu'on va essayer de décrypter.
Oui, c'est toute la magie de Cézanne, n'est-ce pas? Il prend ce genre, la nature morte, que Chirico d'ailleurs décrivait comme ayant une double vie.
Ah oui? Pourquoi double vie?
Eh bien, parce qu'elle est toujours un peu à la frontière, vous voyez, entre l'intime, le privé et puis le public, entre la nature et la culture, la vie et la mort aussi. C'est ce que Bonnie Costello appelle un genre de seuil, vraiment un espace entre deux.
Un genre de seuil, j'aime bien l'idée. Et ça, on le ressent presque physiquement devant certaines toiles, non? Je pense au panier de pommes, celui peint vers 1893.
Mmh.
Tout a l'air sur le point de basculer. Les pommes qui pourraient rouler, la table qui défie l'équilibre, et ses perspectives un peu tordues. Comment il fait pour créer cette tension? C'est voulu, ça?
Ah, mais complètement voulu. Ce n'est pas du tout une maladresse, c'est une stratégie, en fait. Par ces déséquilibres, ces lignes qui fuient mais qui sont comme brisées, ces objets qui semblent vibrer sur place.
Oui, vibrer.
Il crée cette impression de mouvement latent, un mouvement contenu. C'est ce que des gens très différents, hein, comme Kandinsky, Virginia Woolf ou D.H. Lawrence, sont appelés le mouvement immobile.
Le mouvement immobile. D'accord. Et Lawrence, il était fasciné par les pommes, c'est ça?
Ah oui, au point d'inventer le mot « appleness ».
Appleness.
Rien n'est vraiment statique. Immobile. Un sentiment qu'il semble avoir fortement éprouvé. Comme lorsqu'il regardait les citrons se ratatiner ou moisir dans son groupe de nature morte. D.H. Lawrence.
Ça veut dire quoi?
Bah, c'est intraduisible, mais ça évoque cette présence très forte, cette densité, cette vitalité unique de la pomme vue par Cézanne. Sa pommitude, si on veut. Et Woolf, elle parlait d'une qualité très mystérieuse.
Les pommes sont devenues plus rouges, plus rondes et plus vertes. Je soupçonne une qualité très mystérieuse dans ce tableau. Virginia Woolf.
Il y a quelque chose qui nous échappe et nous fascine.
Ce qui est fou aussi, c'est la dimension du temps qui s'ajoute. Lawrence raconte que Cézanne y passait des centaines d'heures, des centaines de séances sur une seule nature morte.
Oui, c'est énorme.
Il regardait la lumière changer, bien sûr, mais aussi les fruits eux-mêmes qui mûrissaient, qui commençaient même à se décomposer sous ses yeux. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, sur sa vision des choses?
Cézanne a élevé la nature morte à un tel point qu'elle a cessé d'être inanimée. Wassily Kandinsky.
Bah, ça nous dit que pour lui, la réalité, ce n'est pas un instant figé, un cliché. C'est un processus, c'est un flux de changement, comme dit Lawrence.
Un flux?
Oui, en peignant si longtemps, il ne capture pas un moment précis, mais l'expérience même du temps qui passe, de la transformation lente, inévitable des choses. C'est vraiment une remise en question de cette idée d'un monde inanimé, statique.
D'accord. Et Lawrence, il va même plus loin, non? Il dit que Cézanne traitait ses modèles humains un peu comme des natures mortes.
C'est ça. Il suggère que Cézanne brouille la frontière. Regardez les portraits de Madame Cézanne, par exemple.
Oui, elle est souvent très stoïque, presque.
Exactement. Elle est là, impassible, monumentale. Mais autour d'elle, les motifs du papier peint, les meubles, tout ça semble vibrer, tressaillir, glisser. Comme si l'environnement lui-même était vivant, participant à cette vie intérieure.
Ah oui, c'est juste.
Kandinsky disait que Cézanne a élevé la nature morte à un tel point qu'elle a cessé d'être inanimée. Il arrive à donner une âme, une vibration, même à une simple tasse de thé.
Incroyable. Et la couleur dans tout ça? Parce qu'on sent bien qu'elle n'est pas juste décorative. Rilke, le poète, il parlait d'une conversation entre les couleurs.
Oui, une vibration.
C'est ça.
L'intérieur du tableau vibre, s'élève et retombe sur lui-même. Et n'a pas une seule partie immobile. René Maria Rilke.
Comment la couleur participe à cette vie?
Ah, mais c'est fondamental. Cézanne ne dessine pas pour ensuite colorier. Pas du tout. Il construit directement avec la couleur. Chaque touche de pinceau, elle module en même temps la forme et la lumière.
D'accord.
Merleau-Ponty l'a très bien expliqué. Cézanne, il ne sépare pas l'objet, la structure stable, de son apparence qui change, qui est colorée. Il utilise la couleur, ces bleus qui reculent, ces rouges qui avancent, ces verts qui vibrent à côté d'un joint pour sculpter l'espace, créer le volume, la profondeur, mais aussi ce frémissement.
Donc la réalité émerge des couleurs, en quelque sorte.
C'est ça, elle émerge de ces interactions chromatiques. Laurence disait « rien n'est vraiment statique ». Et Cézanne le sentait au plus profond en regardant ses citrons se ratatiner ou moisir. La couleur, elle exprime ce processus vital, cette énergie interne.
Bon, alors, si on résume un peu tout ça, les natures mortes de Cézanne, c'est beaucoup plus que juste peindre des pommes ou des pots, c'est un vrai laboratoire d'expérimentation sur notre perception.
Absolument.
Sur cette tension permanente entre l'immobilité et le mouvement, le vivant et l'inerte.
Tout à fait. Il nous propose presque une nouvelle façon de comprendre l'immobilité. Ce n'est plus le statique, le sans vie, c'est plutôt le still en anglais. Un repos qui est vibrant, qui est chargé d'une énergie potentielle, qui contient la promesse du mouvement.
Une immobilité vibrante, comme le dit le titre de l'analyse.
Exactement. Il nous force à voir les choses autrement. Et ça pose une question, finalement. Une fois qu'on a goûté à ça, à cette immobilité vibrante chez Cézanne, comment on regarde une simple pomme ou une tasse posée sur notre table après ?
Bonne question.
Peut-être qu'elles aussi, elles ont leur propre vie secrète qui attend juste qu'on la regarde vraiment.